Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 20. Apocalypse chapitre 22, versets 12 à 20. Au nom de Jésus. Écoute, dit Jésus, je viens bientôt. J'apporterai avec moi mes récompenses que j'accorderai à chacun selon ce qu'il aurait fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes et qui ont ainsi le droit de manger le fruit de l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais hors de la ville, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs d'idoles et tous ceux qui sont menteurs, en parole et en acte. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous annoncer tout cela dans les églises. Je suis le descendant de la famille de David. Je suis l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend cela dise aussi, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau, de la vie, reçoive gratuitement. Moi, Jean, j'adresse ce solennel avertissement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu ajoutera sa punition, les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui enlèvera sa part du fruit de l'arbre de la vie et de sa part de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui garantit la vérité de tout déclare, oui, je viens bientôt, oh qu'il en soit ainsi, viens Seigneur Jésus. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais en lisant ce texte, c'est comme si j'ai l'impression d'entendre une énigme du genre que Samson avait raconté aux Philistins. Voici l'énigme en question. Du mangeur est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Et l'explication de cette énigme est la suivante. Quoi de plus doux que le miel, disait Samson, quoi de plus fort que le lion? Il racontait son expérience quand il avait tué un lion et sur son passage de retour, il a vu qu'à l'intérieur de ce cadavre, il y avait du miel. Cette énigme n'a rien à voir avec notre texte, bien sûr, mais je l'ai prise pour dire que parfois, certains textes bibliques nous mettent vraiment en déroute. On ne comprend pas, surtout le livre de l'Apocalypse. Ce qui est écrit indique une autre chose, souvent. C'est-à-dire que tous les éléments qui sont cités ici dans le texte ne sont que des indicateurs. Et il faut faire très attention dans la façon dont on va manier tous ces éléments qui sont indiqués dedans. De ce fait, il va falloir alors se munir d'une clé d'interprétation pour bien manier ces indicateurs que Jean nous donne dans ce texte. C'est alors que nous allons prendre une clé d'interprétation qui vient même du livre de l'Apocalypse et qui est en lien avec ce qui est écrit ici dans notre texte. Ce lien se trouve dans Apocalypse chapitre 1, versets 12 à 13. Et je vais le lire. « Je me retournai pour voir celui qui parlait avec moi, c'est Jean qui raconte ici. Et quand je me fus retourné, je vis sept portes-lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la poitrine. » Amen. On voit que la vision de Jean ici met en lien le chandelier du temple ainsi que Jésus. Il met les deux côte à côte, comme s'il voulait dire ce chandelier du temple n'était autre que Jésus. Et c'est le menorah. Le menorah se situait dans le temple et il faut savoir que la menorah n'avait qu'un seul modèle. Mais ce que chaque famille juive avait chez eux n'était pas la menorah, c'était plutôt la hanoukia qui comportait huit branches. mais le menorah, 7 branches. Et il a été interdit de reproduire ces menorahs. Elle est unique. Et d'après les spécialistes, elle a 7 lampes à huile en or et décorées de boutons et fleurs d'amandier en or. Et l'ensemble fait clairement penser à un arbre. D'où l'arbre de la vie qui est annoncé ici, qui est reprise dans le chapitre 22. Et la vision de Jean fait alors une identification de Jésus à l'arbre de la vie. Il y a d'autres théologiens qui font le lien entre le chandelier et le buisson ardent aussi, lorsque l'Éternel se révélait à Moïse, puisque la menorah se situait parmi les ustensiles du tabernacle. Et comme vous le savez, tout ce qui se trouvait à l'intérieur de l'arche aussi, de l'alliance, ce sont les tables de la loi, une vase d'or qui contenait la manne et le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Alors on peut penser que ce chandelier aurait aussi symbolisé le buisson ardent où l'Éternel s'est manifesté à Moïse, c'est-à-dire Dieu en personne, le Fils de l'homme. Pourquoi je fais ce grand détour d'explication? C'est pour mettre en exergue que cet arbre de vie n'est autre que le Christ. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit qu'il est la vraie vigne dans l'évangile de Jean. Et donc, celui qui vient à lui et qui mange de cet arbre aura la vie éternelle. Mais ici, il y a un problème qui a été soulevé par Jean dans notre texte. Il a posé une question qui fait réfléchir. Qui auront accès à cet arbre de vie? Qui en réalité peut manger des fruits de cet arbre? Et c'est Jean même qui reprend une expression de considération juive pour ceux qui, à leurs yeux, n'avaient pas le droit d'accéder au temple. Ce sont ceux qui ne pouvaient pas venir au temple. Et voici la liste qui a été reprise par Jean justement pour faire une réflexion. De qui s'agit-il réellement? Et voilà ce qui est dit. Dehors les chiens, les sorciers, les prostituées, les meurtriers, les idolâtres, quiconque aime et fait le mensonge. Ces gens-là ne pourront pas accéder à l'arbre de vie. Voilà la réponse. Alors cette liste qu'on peut qualifier peut-être de liste noire, de personnes aux yeux de la communauté juive, c'était les chrétiens. Ils étaient considérés comme les chiens, comme les sorciers, comme les prostituées, comme les meurtriers, des idolâtres. Les chrétiens étaient considérés comme des idolâtres à ce moment-là. Ceux qui n'ont pas le droit d'entrer dans le temple pour voir cet arbre de vie qui est représenté par la menorah. Alors Jean fait un contre-pied, on va dire, en disant « ces personnes que vous avez considérées comme étant des chiens », c'est la parole de Jean qui dit cela, « ces personnes que vous avez considérées comme des sorciers, ces prostituées, ces meurtriers, ces idolâtres, en somme, ces soi-disant païens, ce sont eux tout compte fait qui pourraient y entrer dans le royaume de Dieu. Et eux qui prendra part à l'arbre de vie. Parce qu'ils ont lavé, c'est ce qui est écrit, ils ont lavé leur robe pour pouvoir venir manger les fruits de l'arbre de vie. » N'est-ce pas ce que Jésus avait aussi dit dans Matthieu chapitre 21, verset 31? « Amen, je vous le dis, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. » Chers frères et sœurs, il faut savoir que le contexte de l'Église à cette époque-là, les chrétiens étaient mis en dehors du temple. Ils ne pouvaient même plus se réunir sur les parvis du temple. Ils étaient considérés comme les idolâtres, pareil à ce qui a été cité dans la liste ici. Donc cette phrase de Jean n'est pas du tout une mise en garde que nous avons cru quand nous avons lu ce texte, mais au contraire une consolation pour leur dire que vous qui êtes considérés comme des chiens, vous, vous avez lavé vos robes par le sang de l'agneau et grâce à cela, vous avez droit à l'arbre de vie. Le message de Jean est assez clair. Il ne faut pas être triste ni se sentir marginalisé par ceux qui se croient être au-dedans du royaume de Dieu. Mais finalement, sans le savoir, ce sont eux qui sont en dehors. Les chrétiens, ils étaient dehors du temple, et ceux qui avaient droit au temple, finalement, ceux qui sont exclus du royaume de Dieu. Cette exhortation de Jean lance un débat, je pense, intéressant. Qu'est-ce qui prime pour nous ? C'est d'être reconnu par notre entourage ou par certaines personnes qui sembleraient détenir l'autorité et le pouvoir, que nous faisons partie du royaume de Dieu ou pas ? Ou bien la reconnaissance de Jésus qui pourrait être vraiment opposée à celle de la majorité ? Parce que beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas par ton nom que nous avons parlé en prophète, par ton nom que nous avons chassé les démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Matthieu chapitre 7, verset 22-23. Je ne vous le cache pas, à chaque fois, quand je lis ce passage, cela me fait toujours un effet bizarre. Seule la reconnaissance de Jésus qui importe, et non la reconnaissance de la société, ni d'un groupe d'individus, ni d'une communauté sur les œuvres et les actes que nous avons pu faire extérieurement. C'est pour cela que j'ai choisi ce thème. Est-ce que Christ me connaît ? Oui, les pubs me connaissent en tant que pasteur de la pub, mais est-ce que le Christ me connaît ? Telle est mon inquiétude. La question que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que Jésus te connaît ? D'où te connaît-il ? Vous allez peut-être me dire, mais Dieu connaît tout le monde, non ? Oui, c'est vrai. Il est omniscient. Mais ici, c'est une connaissance dans le sens d'une existence, d'un lien intime avec lui. Connaître, il y a une relation et une naissance. Connaître. Dans Jean chapitre 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître, c'est-à-dire connecter à Christ. Précédemment, nous avons dit que la connaissance en question exprime une relation profonde. Et donc Dieu, le Père et le Fils vivent en nous. Jean chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. » Et la suite est encore plus intéressante. « Nous ici, le Père et le Fils, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. » Vous imaginez cette phrase ? Le Père et le Fils qui vit en toi. Pas plus dans le ciel, en toi. Tu deviens la demeure de l'Éternel. C'est ça, connaître Dieu. Et la vision de Jean dans ce chapitre 22 parle de l'arbre de vie et de porte. Dans le récit de la chute, rappelez-vous, la mort n'est autre que cet état de privation, de séparation avec Dieu. Cette séparation a été rendue visible par l'exclusion en dehors du jardin d'Éden. Et beaucoup de discussions, de polémiques sur l'existence ou pas de ce lieu appelé Éden. Pourquoi tant de discussions sur l'existence de l'Éden ? C'est parce que la plupart se sont attardés sur la composition de ce lieu. Qu'est-ce qui s'y trouvait vraiment ? Mais il y a une chose, une vérité qui passe inaperçue sous nos yeux dans ce texte. C'est dans ce lieu que se trouvait l'Éternel. Et que veut dire Éden ? Éden veut dire par définition plaisir, délice, précieux, délicat. Alors Dieu a placé l'homme dans ce lieu parfait, privilégié, car ce lieu est marqué par la présence de Dieu. Alors l'Éden n'est pas dans un lieu géographique, l'Éden là où Dieu est. C'est-à-dire ta vie peut devenir un jardin d'Éden, puisque Dieu apporte toutes ses délices, tout son plaisir, toute sa délicatesse. Alors ne nous éloignons pas du Seigneur, car comme dit le psaume 73, verset 28, « Quant à moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. J'ai choisi pour abri le Seigneur, Dieu, afin de raconter toutes tes œuvres. Acceptes-tu d'être la demeure du Christ ? » Amen.